Prenons nos Bibles et regardons ensemble une fois de nouveau dans Ésaïe chapitre 11. Et mon texte aujourd'hui pour ce message, c'est du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre, verset 16. Et j'ai intitulé cette étude « L'avancement du royaume du Christ ». Nous sommes en train de voir ici que, quoique Ésaïe a prophétisé dans un temps historique, au temps où la nation de la Syrie était au pouvoir et que le Seigneur a suscité cette nation pour châtier les 10 tribus du Nord en Israël, que néanmoins, ce qui est prophétisé ici, dans ce chapitre, prévoit un temps de paix qui devait arriver. Et certainement, au moment où Ésaïe prophétisait, il y avait le roi Ézéchias, qui était un roi de Juda. Et puisque le roi de la Syrie avait déjà pris les 10 tribus du Nord en captivité, et beaucoup se sont dispersés, il imaginait qu'il pouvait aussi, en même temps, prendre Jérusalem et détruire le temple, telles étaient les menaces. Mais Dieu, dans sa providence, avait déjà prévu la destruction de Jérusalem et le temple quelques 150 ans plus tard, sous la domination de Babylone. Mais dans ce temps-ci, lorsque Ésaïe prophétisait, et nous avons vu une partie de cela la dernière fois, dans le verset 6 de Ésaïe 11, c'est un langage au sens figuré, où ça parle du loup qui devait habiter avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et nous avons vu la dernière fois que cela était une prophétie qui était réalisée au temps de Christ, lorsque Christ est venu dans le monde pour établir son royaume, et que dans ce royaume, des gens de tout pays, de toute langue, de toute race devaient entrer ensemble, même s'ils étaient auparavant des ennemis, qu'à cause de Christ et la réconciliation qu'il a établie à la croix, qu'ils devaient avoir la paix et ne devaient plus avoir cette division entre juifs et grecs, entre ceux qui étaient auparavant des ennemis et que maintenant à cause de Christ sont unis en lui. Et c'est ce thème qui continue ici dans Ésaïe 11, 10 à 16, parlant de l'avancement du royaume du Christ. Il y a beaucoup de gens qui prennent un passage comme ça et qui pensent que cela doit encore se réaliser un jour à la fin. Et ils disent que Christ doit revenir et établir son trône, son règne, physiquement à Jérusalem, et qu'à partir de là, nous allons voir maintenant cette paix établie. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le royaume du Christ est un royaume spirituel, et que ce royaume a déjà été établi lorsqu'il est venu dans le premier siècle, et qu'il a donné sa vie pour que les pécheurs de toutes parts soient réconciliés non seulement avec lui, mais aussi les uns avec les autres. Mais lisons ces versets ici dans Ésaïe 11, à partir du verset 10. Vous voyez, c'est écrit « En ce jour », et ça précise quel jour, « Le rejeton d'Isaïe », ça c'était le père de David, « sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Cela n'est pas en train de décrire un temps encore futur, maintenant que Christ est venu. C'est lui le rejeton d'Isaïe. C'est lui qui a été établi comme la bannière pour les peuples. Il n'est pas venu simplement pour les Juifs, mais pour les Juifs et les païens, les pécheurs de toute nation, de toute langue. Et c'est écrit, les nations se tourneront vers lui. Quand c'est écrit, les nations se tourneront vers lui, cela ne suppose pas que tous les citoyens des nations se tourneront vers lui. Mais il y a une représentation de toutes les nations parmi les élus de Dieu, que Dieu lui-même a choisi, et pour qui Christ est venu dans ce monde. Et ceux-là se tourneront vers lui dans la foi, et voyant en lui la gloire de Dieu, comme Jean l'a décrit dans son évangile, dans Jean 1. Et verset 11, encore, ces mots sont clés, parce qu'il s'agit là, en ce jour, décrivant ce temps que Christ devait venir, et dans ce même temps. Donc, non seulement le royaume de Dieu était établi dans la première venue de Christ, mais maintenant nous voyons la manière que ce royaume du Christ devait s'avancer dans ce même temps. Verset 11, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, notons, pour racheter le reste de son peuple. Et nous avons vu que ce reste représente les élus que Dieu a préservés. Et comment est-ce que ce peuple donc était racheté? Par l'œuvre de Christ. Bien sûr, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamat et dans les îles de la mer. C'est intéressant que lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, ceux qui étaient présents à Jérusalem le jour de Pentecôte, les nations qui sont citées ici étaient mentionnées là aussi. Ceux-là qui étaient dispersés dans ces différents pays, Dieu a fait venir à Jérusalem au moment de la Pâque, et 50 jours plus tard, pour Pentecôte, c'est ça le mot Penta, signifie 50, 50 jours après, lorsqu'ils étaient là, toujours continuant la fête que Dieu a fait verser sur ce peuple son esprit, et ils ont parlé en langue, c'était des véritables langues, c'était les disciples qui n'ont jamais quitté la frontière du pays d'Israël, qui ont commencé maintenant à parler dans les langues de ces autres pays les merveilles de Dieu, c'est ce qui est écrit, sans avoir appris ces langues eux-mêmes d'une manière naturelle. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? De démontrer que cette prophétie ici prononcé dans les Écritures, était maintenant en train de s'accomplir. Et c'est ce jour-là que des milliers se sont convertis à Christ. Voilà comment ce verset 11 s'est réalisé. Et voilà comment Dieu a déterminé que ce royaume du Christ soit avancé. C'est écrit dans le verset 12, « Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, notons, des quatre extrémités de la terre. » Bien sûr, autant qu'Ésaïe prophétisait ce que nous lisons ici, il y avait un reste déjà qui avait été dispersé lors de la captivité de l'Assyrie la première fois. C'est pourquoi c'est écrit dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. Ceux qui étaient dispersés, voyant la paix en Judée que Dieu a établie sous le règne d'Ézéchias, et là, si vous avez le temps, je vous encourage de lire concernant le règne d'Ézéchias dans 2 Chroniques, et c'est les chapitres 29, 30 et 31. Voilà l'histoire du règne d'Ézéchias. Et pendant son règne, Dieu avait établi des années de paix. Et beaucoup de ces réfugiés qui avaient été dispersés sont revenus pour se réinstaller dans le pays. Et c'est là, c'est écrit, des quatre extrémités de la terre. Mais c'est une image encore prophétique de ce qui devait se passer lorsque Christ devait venir, des centaines d'années plus tard. Au moment où cela s'est passé, nous sommes à peu près 727 ans avant Christ, avant son arrivée. Mais c'est en train de regarder en avant. 700 ans, c'est un long temps. Mais néanmoins, tout s'est réalisé spirituellement, exactement comme était réalisé historiquement au temps d'Ézéchias le roi. Que lorsque Christ est venu et il a établi la justice pour son peuple par sa vie et par sa mort, que c'est grâce à sa mort maintenant que l'Esprit de Dieu commence à faire revenir à Christ comme une bannière qui s'est élevée. Cela représente sa croix dans le verset 12, comme aussi dans le verset 10. Deux fois c'est mentionné que le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière. Une bannière, c'est comme un drapeau autour duquel une nation ou bien une race se réunit, et la bannière pour les rescapés de Christ, les réfugiés, ceux qui étaient les exilés, ceux qui étaient dispersés par leurs péchés, maintenant sont ramenés des quatre extrémités de la terre. Donc il y a beaucoup ici à considérer. Mais c'est pourquoi, dans le verset 13, c'est écrit, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra. Là où vous voyez Éphraïm, c'était une des tribus du Nord, qui représentait les 10 tribus du Nord. Et la jalousie qu'il y avait entre les tribus du Nord et ceux du Sud devait maintenant disperser. C'est écrit, ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Cela s'est réalisé historiquement encore au temps d'Ézéchias le roi. Mais spirituellement, cela s'est réalisé au temps de Christ. Lorsqu'il a établi par sa vie et sa mort un seul corps et une seule assemblée, c'est-à-dire son Église. Et c'est grâce à son œuvre que cette paix a été établie jusqu'au point qu'il n'y a plus juif ou grec, il n'y a plus homme ni femme, il n'y a plus esclave ou des maîtres, il n'y a pas de distinction en Christ, que tous sont unis en lui pour qui il a accompli son œuvre. C'est écrit verset 14, ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront l'ensemble des fils de l'Orient, Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Encore, historiquement, cela s'est réalisé encore au temps d'Ézéchias, où le Seigneur lui a donné ce pouvoir sur ceux qui étaient auparavant des ennemis. Et en cela, Ézéchias représente une image de Christ, le roi, qui est venu et qui a vaincu tous les ennemis de son peuple. C'est écrit, verset 15, « L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il levera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence, et il le partagera en 7 canaux, et on le traversera avec des souliers. » C'est une image de ce qu'il avait fait lorsqu'il a fait sortir Israël de l'Égypte la première fois, sous la médiation de Moïse. Mais ici, c'est une manière de parler aussi de la manière qu'il allait agir en faveur de son peuple pour les amener maintenant à la sécurité et assujetter leurs ennemis sous ses pieds. Et verset 16 dit, « Et il y aura une route pour le reste de son peuple. » Qu'est-ce que Christ a dit? Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, cette route qu'il devait établir n'est pas une route physique dont il parle, mais une voie au salut qui est en Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus est venu établir. Et c'est écrit, « Qui sera échappé de la Syrie ?» Parlant encore de ce reste, de ces rescapés, de ces exilés, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Alors, c'est bien d'étudier des passages comme ça, voyant non seulement le contexte historique, parce que tout s'est passé dans l'histoire, et comme je dis souvent, l'histoire de la Bible est une histoire de rédemption. Mais tout ce qui s'est passé est donné comme une image de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est comme ça que Christ lui-même nous a appris, lorsqu'il était avec ses disciples, à interpréter l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas un simple livre de moralité ou bien d'histoire, non. Mais tout ce qui a été écrit est donné comme exemple de la manière que Dieu sauve son peuple. Alors revenons dans ce passage au verset 10 encore. Comme je disais, cette prophétie s'est en partie accomplie lorsque les grandes choses que Dieu a faites par Ézéchias le roi et son peuple se sont révélés comme un signe annonçant aux nations voisines à s'enquérir des merveilles accomplies dans le pays. Voilà, le roi de la Syrie et surtout son général Sennacherib, il a subi une grande défaite tout en pensant qu'il pouvait prendre Jérusalem et le temple. Mais Dieu a intervenu pour l'empêcher. Il a dû retourner dans son pays malgré la campagne qu'il menait. Et en peu de temps plus tard, lui-même, il a été assassiné par sa propre famille. Voilà comment Dieu a déterminé la fin de sa vie. Mais nous voyons ici que tout cela, Dieu a donné comme un exemple pour ces autres nations, mais aussi pour Israël, de ne pas chercher leur gloire dans leur propre puissance. Parce que c'est Dieu qui est souverain, et c'est Dieu qui suscite des nations, et c'est lui qui abaisse des nations, selon sa volonté. Ce n'est pas selon la volonté des hommes, mais selon sa volonté. Alors, beaucoup d'Israélites qui appartenaient au royaume des 10 tribus, que lors de la destruction de leur territoire, leur royaume par le roi d'Assyrie, ils étaient forcés à fuir et s'abriter dans tous les pays environnants, et pour certains se trouver alors très loin, très éloignés du pays d'où ils étaient déracinés. Mais même dans les îles de la mer, et c'est de ça que ça parle dans le verset 11, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. Et par là, quand ils ont appris et entendu que maintenant l'ennemi a été chassé pour le moment, ils ont pris courage de rentrer de nouveau dans le pays et retourner dans leur propre territoire et se mettre maintenant sous la protection et le gouvernement du roi de Juda, parce que les 10 tribus n'avaient plus de roi. Et le roi de Juda, à cette époque, était Ézéchias. Et ils ont trouvé mieux d'aller, quoi qu'ils étaient des ennemis auparavant, avec les tribus du sud, maintenant ils ont trouvé courage d'aller s'asseoir sous la tutelle du roi que Dieu avait suscité, Ézéchias, et vivre en paix avec ceux qui étaient auparavant leurs ennemis. On dit que c'est une seconde fois pour eux, verset 11. Cela démontre un exemple de la puissance et de la bonté de Dieu. Imaginons sa grâce envers nous, que ce n'est pas simplement une fois qu'il agit en faveur des siens, mais maintes fois, comme ici, une seconde fois. Et que cela doit nous encourager de voir comment il nous préserve par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, comme ceux-là ont trouvé leur recours sous le règne d'Ézéchias, qui était une image de Christ. Alors les exilés d'Israël, c'est comme ça que les Écritures les décrivent dans le verset 12. Ils devaient être rassemblés et ramenés à la maison. Cela encore, c'est comme Christ lui-même a dit, de tout ce que le Père lui a donné, il ne perdra aucun de cela. Et voilà, si nous sommes à Christ aujourd'hui, toute la gloire lui revient. Ce n'est pas en nous. Ce n'est pas que nous avons nous-mêmes, par notre propre volonté, pris la décision de venir à Christ. Non, c'est lui, à cause de sa mort, qui attire chacun pour qui il est mort. Et donc, les exilés d'Israël devaient être rassemblés et ramenés à leur maison. Un exemple là du salut en Christ. Mais aussi ceux de Juda, qui, à l'approche de l'armée assyrienne, se sont déplacés eux-mêmes pour leur propre sécurité. Eux aussi, ils ont fui. Mais maintenant, Dieu a fait à ce qu'ils sont tous rentrés. Dieu lui-même ayant détruit l'ennemi. Et donc, ils ont cherché leur refuge là, en lui. Notez ici que ceux qui ont partagé les afflictions et les miséricordes, les dangers et les délivrances, c'est toujours comme ça. Quel que soit notre état devant Dieu, quelle que soit l'affliction, quels que soient les dangers, nous savons que la grâce de Dieu surabonde, comme Paul décrit dans son épître aux Romains. Et comme je disais, la description d'Éphraïm dans le verset 13 et de Juda, qui étaient auparavant des ennemis, quoique faisant partie du même pays d'Israël, mais ennemi. Néanmoins, à cause de la grâce de Dieu, ils étaient maintenant rassemblés en paix. Dans Éphésiens chapitre 2, nous voyons comment Paul décrit cela par rapport à ceux qui sont en Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, il dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et notons, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. » Donc, lorsque Christ est mort, ceux qu'il représentait sont morts en lui. Le jugement qui devait tomber sur eux est tombé sur Christ comme le substitut. Mais maintenant, lorsqu'il est ressuscité, notons, verset 6 parle d'une résurrection ensemble. Donc, il ne s'agit pas là individuellement de la régénération des pécheurs. Non, mais il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et donc, Éphésiens 2, 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Et la manière que c'est écrit dans le grec, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » C'est dans le sens de « une fois sauvés, continuant dans ce salut. » C'est Dieu qui sauve et c'est Dieu qui maintient ceux qui sauvent. Et par le moyen de la foi, cela veut dire en leur donnant la foi, de regarder uniquement à Christ et non pas à eux-mêmes. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, l'exemple que nous avons ici, dans Ésaïe 11, de la manière que Dieu a ramené ce peuple dispersé, même ceux qui étaient auparavant des ennemis, et les a fait rassemblés ensemble dans la même maison. C'est un exemple de l'œuvre du Christ qu'il a accompli dans sa vie et dans sa mort, où même les montagnes ne pouvaient pas empêcher son œuvre et l'empêcher d'accomplir ce qu'il a décrit. Il y a une racine ici qui démontre que cela s'est accompli dans la venue du Christ la première fois et que l'accession des nations à son royaume, c'est ce qui est prévu ici, que cela ne devait pas être seulement pour ceux qui étaient de la racine juive, mais des nations. Et que verset 10 nous le dit, le rejeton d'Isaïe, c'est comme ça que Christ est venu dans ce monde comme une racine sèche au vu des hommes, mais pas à la vue de Dieu. Ésaïe 53, que nous allons éventuellement étudier. Nous progressons petit à petit dans ce livre d'Ésaïe, mais c'est comme ça, Ésaïe 53 et le verset 2 décrit la naissance de Christ et son incarnation. Ésaïe 53, 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme quoi un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix, voilà le mot, la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tout cela est décrit ici dans ce passage et décrit de la manière que Dieu a ordonné à ce que le royaume du Christ soit avancé. D'abord, en faisant venir son Fils dans ce monde comme ce rejeton d'Isaïe. Mais c'est pourquoi Dieu a préservé cette race, cette racine, cette lignée du peuple, parce que Christ devait venir de la tribu de Judas. Donc c'était impossible que cette racine soit entièrement coupée et enlevée. Et donc Dieu a non seulement établi le royaume du Christ dans la personne de Christ et son œuvre, mais c'est par lui qu'il a ordonné à ce que tous ceux qui étaient les exilés des extrémités de la terre, juifs comme païens, ceux qu'il a lui-même élus et ordonné au salut, soient amenés à lui, non seulement dans l'incarnation du Christ, mais aussi dans sa mort. Les deux vont ensemble. Si Christ était venu dans le monde simplement pour vivre une vie parfaite et victorieuse et puis monter au ciel, il n'aurait pas de salut. C'était nécessaire qu'il vienne et qu'il vit parfaitement tout ce que la loi et la justice de Dieu exigeaient, mais en même temps donner sa vie, parce que la peine pour la désobéissance de la part de son peuple, c'est quoi? La mort. Mais la mort de Christ ici, donc nous avons dans le verset 10 sa personne, le rejeton d'Isaïe, mais ici c'est écrit, sera là comme une bannière pour les peuples. Et puis dans le verset 12, il élèvera une bannière pour les nations. Là, il s'agit de sa mort, comme je disais, une bannière représente un drapeau, symbole d'un pays ou bien d'un État ou bien d'une nation, et symbole de ralliement. Lorsqu'on parle de lutter sous l'étendard d'une noble cause, voilà ce que nous voyons ici. Et lorsque Christ a été crucifié, il a été élevé de la terre, afin que, comme enseigne de phare qu'on voit au bord de la mer, il attire à lui les yeux et les cœurs de tous les hommes pour qui il est venu sauver, des hommes de différents genres, des pécheurs du monde. Dans Jean chapitre 12, si vous regardez là avec moi, Jean chapitre 12, et le verset 32, Christ lui-même a dit cela. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, il ne parle pas là de sa montée au ciel, mais il parle là de sa mort à la croix. C'est pourquoi il était crucifié sur un bois, élevé de la terre. Mais il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Encore, il faut comprendre cette phrase, tous les hommes dans le sens ethnique. Il attirera tout genre d'hommes à lui. Comme c'est écrit ici dans Isaïe 11, de toutes les extrémités de la terre. Donc voilà comment Dieu a ordonné à ce que le royaume du Christ soit établi, le fondement posé. Et maintenant, l'avancement de ce royaume soit par son esprit, en faisant venir à lui chacun pour qui il est mort, pour qu'à la fin, aucun ne manquera. Il y a beaucoup de place au ciel, mais il n'y a pas de gens qui n'y seront pas, que Dieu a ordonné à ce qu'ils soient là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, de la même manière que Christ a été élevé de la terre dans sa crucifixion et sa mort, nous qui prêchons l'Évangile, nous prenons Christ comme notre enseigne, notre bannière. Et c'est par la prédication de l'Évangile que nous annonçons un Christ élevé par sa mort. Et ça, c'est notre porte-drapeau, si vous voulez. C'est Christ et Christ crucifié. Et lorsque nous sortons pour prêcher ce message de Christ, nous faisons cela en croyant, sachant que Dieu attirera à lui chacun des exilés, chacun de ceux que Dieu a donné à Christ afin de payer leur dette par sa mort. Et c'est cette bannière sous laquelle se rassemblent tous ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, les enfants de Dieu dispersés. Encore dans l'Évangile selon Jean, et le chapitre 11, et le verset 51, lorsque ici il y avait le Sanhédrin qui était rassemblé contre Jésus. Et c'est intéressant que Christ lui-même, à cette époque, a passé un séjour, notons dans le verset 54, dans une ville appelée Éphraïm. C'est pourquoi je disais que l'accomplissement de ce que nous lisons ici, verset 13, la jalousie d'Éphraïm, dans Isaïe 11, il y avait un peuple là, qui était parmi ce nombre d'exilés qui étaient préservés jusqu'au jour de Christ, pour qui Christ est allé prêcher son évangile. Mais qu'est-ce qu'il dit ici dans Jean 12 et Jean 11, le verset 51, il dit, or, il ne dit pas cela de lui-même, parce qu'il y avait Caïphe, qui était du Sanhédrin. Cela, on remonte verset 49. Donc, les gens se plaignaient, verset 48, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. C'était leur crainte. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissiez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Mais notons verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour qui? La nation. Et ce n'est pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Alors voilà la signification de ce passage que nous sommes en train d'étudier, que le Christ lui-même devait rassembler sous sa bannière les enfants de Dieu qui étaient dispersés et qui devaient maintenant venir à lui et qu'il devait être leur repos. C'est écrit ici dans ce passage que, verset 16, il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie comme il y en a eu pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte. Voilà l'œuvre de Christ. Voilà ce qu'il a accompli, afin que chacun pour qui il est venu soit rassemblé en lui, dans la paix, réconcilié à Dieu, mais aussi réconcilié les uns avec les autres. Alors que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons d'entendre et que son nom soit glorifié. Amen.